de Daria, François et JP. On parle aujourd'hui de la réforme des retraites et donc là avec François, syndicaliste à Sud, on va parler un petit peu concrètement de la réforme. Alors c'est quoi un petit peu la logique de cette réforme? Qu'est-ce qui motive le gouvernement, là à l'heure actuelle le gouvernement Macron, à vouloir encore réformer et de manière quand même assez vénère cette question des retraites?
Alors la question de la motivation, elle est complexe, parce que ça me fait rentrer un peu, si je voulais répondre, je serais obligé de répondre. Alors je peux peut-être préciser peut-être les enjeux, les arguments locaux avant de rentrer, parce que c'est plutôt un argument final ça. Qu'est-ce qui motive tout simplement, hein, c'est des réalités démographiques, hein, il faut en avoir conscience. Aujourd'hui, il y a 1,7 actifs qui travaillent, donc salariés et non salariés, pour un retraité. Démographiquement, on sait très bien qu'on a un problème démographique qui arrive. On a la génération baby-boom qui arrive à l'âge de la retraite, qui est déjà un peu commencé, mais ça va monter en puissance. Et on estime que dans 30 ans, on sera à 1,3 salariés ou non salariés pour un retraité. Donc ça va devenir, il va avoir effectivement des difficultés à financer
le régime.
Donc en fait,
c'est-à-dire que la part des travailleurs actifs va se réduire.
Oui.
Et comme c'est eux qui financent les retraites actuelles...
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est pas un si grand problème que cela. À partir du moment où on a de la croissance économique, où les salaires augmentent, ce qui permet de faire rentrer beaucoup plus de cotisations sociales et d'amener les ressources nécessaires. C'est pas si grave que ça. Après, le gouvernement, lui, d'ailleurs, on l'a bien vu, hein, avec le rapport du COR qui est sorti cette semaine, alors que normalement, il n'y aura jamais de rapport du COR à ce moment-là de l'année, hein, ça n'existe pas, qui était sur commande du Premier ministre, pour avant tout mettre en avant le fait qu'on va avoir des problèmes de financement, c'est urgent, il faut absolument réformer, etc., etc. Donc là, ils sont quand même sous une pression assez importante sur ce sujet-là. On estime, le COR estime, le Conseil d'orientation des retraites, hein, le COR c'est un peu les experts, les scientifiques qui sont pas trop politisés encore, heureusement, ils estiment qu'en cas de croissance faible, à peu près la croissance qu'on a actuellement, effectivement sur les 30 prochaines années, si on reste dans le système actuel, on aura un déficit approximativement pour le régime des retraites d'1% du PIB, à peu près 20 milliards d'euros par an. Donc en gros, il va y avoir 20 milliards d'euros par an de déficit durant les 30 prochaines années. Pour cette raison-là, le gouvernement dit qu'il faut réformer. Deuxième motif de réforme pour le gouvernement... le prétexte en tout cas plutôt, c'est mettre de l'égalité, simplifier, mettre plus de transparence, d'égalité, faire en sorte que tout le monde ait exactement, qu'il y ait un régime universel, unique, que tout le monde soit dedans, et qu'il n'y ait plus de règles différentes, qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux qui pilleraient, qui seraient largement des profiteurs avantagés, et voilà, que mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça, ce sont les arguments gouvernementaux.
Donc c'est... notamment cette question de l'égalité, c'est notamment l'ambition de vouloir mettre un système à points.
Alors qu'est-ce que c'est le système à points?
Voilà, par exemple, c'est-à-dire que là, jusque-là, on n'a pas de système à points, puisqu'on cotise, et en gros, pour toucher son chômage, c'est un calcul assez savant, assez complexe, mais en gros, on va toucher un pourcentage de...
sa pension de retraite, oui.
Ou de ses 20 meilleures années, ou de ses dernières années en fonction.
Typiquement, aujourd'hui, les différences publiques-privées sont assez limitées. Puisqu'il y a le système des complémentaires dans le privé qui est plus développé, les modalités de calcul ne sont pas les mêmes. Moi, quand j'ai regardé les chiffres du COR, je pensais qu'il y aurait des écarts un peu plus importants, mais au final, le taux de remplacement, c'est-à-dire le montant de la pension de retraite par rapport au dernier salaire perçu, c'est à peu près le même pour tout le monde. C'est entre 70-75%.
Donc, c'est-à-dire qu'on touche à peu près 70-75% de ces derniers salaires.
Il n'y a pas d'inégalité de ce point de vue-là. Il y a des inégalités entre les pensions des hommes et des femmes, qui sont de 40% actuellement aujourd'hui. Mais on sait bien que c'est pas dû du tout au système de retraite en soi, c'est dû aux inégalités du marché du travail des précédentes décennies. Et que naturellement, cette inégalité va se résorber cette différence de pension moyenne entre hommes et femmes, à autour de 10%. Puisque aujourd'hui, heureusement, on a encore des inégalités salariales, je ne dis pas que c'est parfait, mais on en a beaucoup moins.
Et
on va retrouver les mêmes inégalités, mais c'est logique, hein, on va garder les mêmes inégalités qui vont se poursuivre. Donc en fait, le principe d'égalité entre hommes et femmes, c'est pas le système à points, ne change strictement rien d'ailleurs. Et le principe d'égalité de traitement tout le monde, on a tous le même taux de remplacement environ, quoi. Les modalités de calcul sont différentes, mais il y a toujours eu des raisons dans notre système, dans nos différents régimes de retraite, qui font que les modalités de calcul sont différentes. Effectivement, pour les fonctionnaires, on va prendre les 6 derniers mois et prendre le salaire moyen des 6 derniers mois et se baser là-dessus pour calculer la pension. Mais pourquoi? Mais parce que la rémunération des fonctionnaires à niveau de diplôme équivalent est globalement inférieure aux rémunérations du privé. Et parce que les fonctionnaires n'ont pas de complémentaire. On n'a pas tous ces... Enfin, je veux dire, il y a des éléments différents. Pour d'autres métiers, pour d'autres régimes spéciaux, on va dire, particuliers, qui ont des régimes plus favorables, où ils partent un peu plus tôt, on leur demande de moins cotiser en nombre de trimestres, Essentiellement, c'est des résultats de l'histoire sociale, des acquis sociaux.
Et, des métiers difficiles,
qui étaient liés à des conditions de travail souvent difficiles, souvent pénibles, effectivement. Alors, je ne dis pas qu'on peut revoir certaines choses par moment. On peut pas rester braqué sur une position, il ne faut rien changer.
Le système actuel est loin d'être
parfait.
Bien sûr,
il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Mais là, le système à points qui nous arrive, c'est une catastrophe.
Alors pourquoi ? Qu'est-ce que ça va donner ?
J'explique que c'est un peu complexe, parce que malheureusement, c'est technique, donc ça demande un peu de temps. Système à points, il nous dit quoi ? Le système à points. Il nous dit, en fait, le système à points, c'est pas vraiment ça le problème. C'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que derrière le système à points, il y a une règle d'or. Pour qu'il n'y ait plus de problème de déséquilibre économique entre les dépenses et les recettes de la sécurité sociale, de l'assurance vieillesse, pour qu'on ait automatiquement un équilibre financier, que ce soit, et que du coup, on n'ait plus jamais ces histoires de trous dans le financement de l'assurance vieillesse. Le Premier ministre, enfin plutôt Monsieur Delevoye, le haut commissaire aux retraites, a formulé une proposition qui serait que les montants totaux de retraite distribués dans l'économie ne représentent jamais plus de 13,8% du PIB, ce qui est le niveau actuel. Le point sera la variable d'ajustement qui permettra de toujours respecter cette condition. Le point ne découle que de ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il faut s'imaginer le PIB pour comprendre en fait. Le PIB, c'est un gâteau. C'est le gâteau des richesses qu'on a créées dans le pays en une année. C'est aussi le gâteau à se partager. C'est ça le PIB, c'est le gâteau à se partager. En faisant ça, le gâteau est partagé, on peut le dire, entre deux choses. Je simplifie très légèrement, mais c'est ça. Entre le travail, ceux qui ont apporté leur travail pour produire des richesses, les salaires, les pensions de retraite. Et le capital, ceux qui ont apporté les capitaux, ceux qui possèdent les entreprises. Si j'étais un peu grossier, je dirais les capitalistes. Cette part de la rémunération des capitalistes, ça s'appelle le profit. Ça s'appelle le profit, c'est comme ça. En fait, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Moi, c'est mon analyse de cette réforme. Les capitalistes, on est dans un gouvernement néolibéral. Un gouvernement néolibéral, c'est un gouvernement, grosso modo, qui est pour l'économie de marché et qui considère que le capital, c'est ceux qu'il faut privilégier parce que ce sont eux qui font tourner l'économie, etc. etc. Bon, bref, et puis il y a plein d'autres raisons. Mais le capital, les capitalistes, aujourd'hui ont peur. On peur d'une chose, on est dans un état de... On a une faible croissance économique depuis 10 ans et ça devrait continuer. Ils ont peur de voir, avec l'arrivée démographique de la génération des baby-boomers à la retraite, de voir des pressions sur « Et attention, là, il y a un déficit, on est bien plus nombreux à être en retraite, on a besoin de plus. » Ils ont peur de voir leur part du gâteau grignoter. Donc cette réforme du système à points, à travers cette règle d'or du 13,8%, elle limite de facto... le montant des retraites distribuées. Du coup, la partie profit n'est pas touchée. C'est ça, le vrai enjeu, il est là. Les capitalistes, ceux qui possèdent, les milliardaires, les grandes puissances, ce sont eux qui ont impulsé ce mouvement-là. Ils veulent absolument limiter la part de la rémunération distribuée aux travailleurs. Ça ne touche pas les salaires, mais les pensions de retraite, ça les diminue. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, comme il y aura beaucoup plus de vieux, il y aura plus de vieux de plus de 60, plus de 65 ans, eh bien, ça veut dire qu'on va être beaucoup plus nombreux à se partager le même gâteau. Alors, M. Delevoye va nous dire, le gouvernement va nous dire, mais non, vous avez la possibilité de travailler plus pour cumuler plus de points. Voilà, au final, on revient toujours aux mêmes logiques. Soit on part plus tard, ça sera un choix individuel. On n'est plus dans le collectif, d'ailleurs, on fait sauter toujours, on essaie toujours de faire sauter un peu les solidarités collectives et les mécanismes collectifs qu'il y avait auparavant. Soit vous partez plus tard pour cumuler plus de points. Et soit vous acceptez, si vous partez tôt, vous acceptez d'avoir peu de points et donc de prendre une part du gâteau assez réduite.
Et donc, mais ce point, en fait, qui va fixer la valeur de ce point ?
Ce point va être fixé par les partenaires sociaux, mais c'est un peu l'idée qui était mise en avant, c'était que ce point soit fixé par les partenaires sociaux. Mais en fait, c'est fictif, puisque ce point est fixé de facto par la règle des 13,8%. Le cadrage sera tellement limité qu'en fait, ils n'auront pas le choix. Donc la valeur du point, ils vont peut-être s'engager à dire que la valeur du point ne baissera jamais, mais comme en fait, de manière générale, dans toute économie, même dans une économie qui est en stagnation, il y a toujours de l'inflation, un point qui n'augmente pas ou qui augmente très peu, c'est un point qui diminue en réalité, c'est un pouvoir d'achat du point qui diminue, puisqu'on a de l'inflation, généralement les prix augmentent plus vite
que les salaires.
C'est pour moi l'enjeu clé, il est vraiment du point de vue global, je parle du point de vue global, je ne suis pas dans la question de l'égalité, mais du point de vue global, l'enjeu clé il est là, c'est qu'en fixant la part du gâteau pour les retraités, alors qu'on sait très bien que la part des plus de 60-65 ans va exploser, ça on sait à l'avance, c'est d'emblée dire, soit vous partez plus tard, soit vous acceptez des pensions de retraite petites. En aucune façon, et ça c'est la pire des choses, en entérinant cette réforme, en l'entérinant de façon définitive, il n'y aura plus jamais de déficit, puisque de facto, le point sera la variable d'ajustement. Et du coup, plus jamais on ne posera la question des ressources. Plus jamais on se dira, mais peut-être qu'on pourrait augmenter les cotisations sociales, ce qu'on a toujours fait pendant les 30 Glorieuses. Peut-être qu'on pourrait prélever une partie des revenus du capital pour les reverser, pour financer par solidarité les caisses des retraites. Moi, ce que je disais hier, hier j'étais à la consultation citoyenne de M. Delevoye, je me disais, mais peut-être on peut créer, les dividendes ont explosé, c'est 80 milliards, quelque chose comme ça, cette année, c'est des revenus du capital, c'est qu'une partie. Si on prélevait une partie d'entre eux, ça serait bien. Bernard Arnault, l'an dernier, l'homme le plus riche du monde, a vu sa fortune. Alors, il ne travaille pas, Bernard Arnault. Il possède, hein, donc on ne parle même pas de la légitimité de ses revenus, a vu sa fortune s'accroître de 800 euros par seconde. Par seconde, hein, qu'il dorme, qu'il soit aux toilettes, qu'il mange, 800 euros par seconde. Alors, c'est ce que je... je n'ai pas exactement ma rémunération. Et 800 euros par seconde, c'est 20-25 milliards d'euros. C'est le déficit attendu. Voilà, au bout d'un moment, il faut être réaliste. La vraie question qui est posée derrière, c'est la question du partage des richesses. Et à travers ce système à points, on entérine l'idée qu'on ne pose plus jamais cette question du partage des richesses.
Ou tout du moins qu'on la pose, on la pose uniquement...
Aux travailleurs.
Voilà, aux travailleurs.
Vous gérez entre vous, débrouillez-vous.
Au capital, à ceux qui derrière génèrent le profit.
Exactement. Il suffirait, pour donner un chiffre peut-être pour illustrer un peu plus, donc Bernard Arnault, bon, c'est un exemple un peu anecdotique, mais quand même, avec un seul homme, il lui resterait beaucoup, hein, rassurez-vous, mais avec un seul homme, on résout le problème. Les dividendes, c'est pareil. Pour donner un seul chiffre, oui, il faudrait augmenter donc les ressources de 2%, cela suffirait, et ça peut être une augmentation des taux de cotisation sociale d'à peu près 2%, ou même une augmentation des salaires. En augmentant les salaires, par
on
définition...
On augmente la part qui est prise, plus qu'un pourcentage.
On augmente les salaires, ça veut dire qu'on augmente les cotisations sociales, donc ça permet de verser plus. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose, si on augmente les salaires, c'est que ça prend sur le profit. C'est toujours cet enjeu-là clé qui est au fond. Voilà.
Ok, et ben merci pour ce point un petit peu sur donc le contenu de la réforme. On va faire une courte pause musicale et dans le troisième temps de l'émission, on va un petit peu attaquer qu'est-ce qui va se passer le 5 décembre, puisque bon, il y a quand même une
j'ai
opposition.
J'ai pas eu le temps de parler de l'égalité et de la transparence, je sais pas si on...
Ouais. On aura le temps, on prendra un temps juste après la chanson pour pouvoir en discuter. Donc là, on va s'écouter Leila Makkala, c'est du blues haïtien. La chanson s'appelle « Mais si bon Dieu ». Vous êtes bien à l'écoute de Fracture, c'était Leïla Makkala, Merci Bon Dieu. Et on va terminer cette émission bientôt, puisqu'il nous reste 10 minutes. Mais d'abord, François voulait revenir sur deux points, sur la question de l'égalité et de la transparence. Est-ce que tu peux brièvement revenir dessus?
Oui, oui, très, très rapidement. Après, c'est vrai qu'il me faudrait une heure et demie. Enfin,
c'est, pas un
dire,
sujet,
quoi. C'est un sujet technique, et c'est ça qui est un peu compliqué, effectivement. C'est pas, on ne peut pas le résumer en deux secondes. Oui, des arguments que j'entends, l'argument on va évoquer, ça sera plus transparent, plus facile à comprendre. Oui, alors, ça sera plus transparent, effectivement, je saurai combien de points j'ai hein, à tout moment de l'année, je pourrais savoir combien de points j'ai cumulé, mais comme je ne sais pas la valeur du point,
ça nous avancera pas.
Voilà, j'ai des images, quoi, mais je ne sais pas combien vaut mon image. Bon, voilà, c'est une transparence très limitée. Le deuxième grand enjeu de cette réforme, donc premier enjeu, c'est comme, moi, pour moi une attaque du capital sur les travailleurs, très nette, et qui est clairement déguisée à travers cette notion de point. Et le deuxième grand enjeu de cette réforme qui a posé beaucoup de problèmes, c'est la notion de système plus juste, plus égalitaire. Donc déjà, c'est partir du principe que les régimes spéciaux sont illégitimes.
Inégalitaires.
Et donc... voilà, sont illégitimes et qu'il faudrait qu'on soit tous exactement sur la même chose. Bon, pourtant, excusez-moi, mais enfin, il y a énormément de soucis entre... Il y a des métiers pénibles, d'autres beaucoup moins. Il y a des salariés qui ont, dans un monde de plus en plus précaire, qui ont des carrières hachées. Donc face de CDD qui ont du mal à cumuler leur trimestre.
Les intérimaires. Tout un tas de personnes qui ne sont pas en CDI.
On a encore des inégalités hommes-femmes du fait que la femme est encore, enfin les femmes sont pardon, encore assez largement investies dans la vie familiale et ont des beaucoup plus de temps partiel. 80% des salariés à temps partiel aujourd'hui sont des femmes, donc forcément accumulent moins de points. Donc et comme les primes donneraient droit à des points, tous les salariés qui aujourd'hui bénéficient de primes, essentiellement, bah, c'est plutôt des cadres, hein, c'est plutôt des cadres du privé ou des professions intermédiaires du privé. Eux, on verront leur nombre de points augmenter, tandis que ceux qui n'ont pas de prime, relativement verraient leur compteur de points augmenter bien plus laborieusement. Voilà, on estime qu'il y a les estimations que je fais aujourd'hui, hein, je sais que peut-être le montant total des pensions moyennes de retraite distribuées, si on partait au même temps, ça serait peut-être moins 25%, quelque chose comme ça, dans les 10 ans à venir, en moyenne pour tout le monde. Et pour certaines professions, ceux qui cumulent un peu tous les handicaps, on va arriver à du moins 40%, du moins 50%.
Ouais.
Hein, on a fait des simulations pour certains...
Oui, vas-y Jean-Pierre.
Rajouter juste une chose, le fait de calculer sur l'égalité, ça gomme, et ça plaît au gouvernement, toute idée de lutte. Parce qu'il faut savoir qu'une partie de ce qui a été obtenu comme régime spécial, l'ont été aussi grâce à des luttes.
Tout à fait.
Et ça, ça gomme, du coup.
Oui, on n'est plus dans la conflictualité, on est... Bon, et puis les régimes spéciaux qui servent à chaque fois, le gouvernement s'en sert pour cliver les citoyens, c'est comme le Rassemblement National avec les immigrés, hein, c'est exactement la même logique, hein, c'est de la faute des immigrés s'il y a du chômage. Bon, bah, c'est de la faute des régimes spéciaux s'il y a des déficits, s'il y a un trou de la sécurité, c'est exactement la même logique. Hein, savoir que les régimes spéciaux, c'est 3% des salariés, c'est personne. En termes économiques, démographiquement, ça représente personne, c'est pas ça le souci. Les fonctionnaires, en comptant les fonctionnaires, on est à 20%. La pension moyenne, enfin, c'est effectivement des raisons qui sont absolument pas acceptables. Hein, il y a des simulateurs qui sont en ligne, hein, si vous les trouverez facilement, en particulier pour les enseignants et des syndicats qui ont fait le boulot. Il y a un simulateur aussi interprofessionnel sur si on partait au même moment, quelle serait la différence. On a des choses hallucinantes. Hein, je connais quelqu'un qui partirait avec 1900 euros dans le système actuel, tomberait à 1000 euros, moins 900.
Bah, là, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est pour les intérimaires ou les saisonniers, tous ceux en fait, qui ne travaillent pas de manière régulière. À l'heure actuelle, en fait, admettons qu'un intérimaire arrive maintenant au chômage, en fait, ces périodes de chômage vont quand même être comptés dans ces annuités. Quand ils vont faire la moyenne, ils vont prendre en compte. Et en fait, a priori, avec le nouveau chômage, en fait, les périodes de chômage ne rentreraient pas dans le calcul des points.
Oui,
alors, c'est-à-dire que vraiment, les gens qui ont des périodes hachées...
Alors là, très clairement, sur tous les trucs techniques comme ça, il y a plein de flous. Il y a plein d'hypothèses. C'est très difficile. Ils vont faire des choses, bien sûr. Ils vont faire quelques petits trucs pour l'égalité homme-femme. Peut-être quelque chose sur la pénibilité. Il faut savoir aussi hein, que le système, il est à revoir aussi, même celui actuel. Il y a un écart d'espérance de vie entre les cadres hommes et les ouvriers hommes aujourd'hui de 7 ans. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas égalité. Et avec ce système, ce n'est pas ce système qui va renforcer l'égalité, loin de là. Si on part tous en même temps, il y en a un qui vont vivre 7 ans de plus que les autres. Donc, me parler d'égalité me paraît vraiment une simplification particulière.
Alors, quelle perspective de lutte? Puisque là, on l'a dit un petit peu en début, le 5 décembre, il y a une journée de grève nationale qui est appelée. Donc, l'intersyndicale a appelé vraiment tous les métiers, tous les salariés du secteur public, du secteur privé. Qu'est-ce que ça peut donner?
Alors, on peut déjà noter que le gouvernement envoie quelques signes de faiblesse, hein, montre, et c'est quand même très encourageant, en commençant plusieurs signes. Déjà, un désaccord entre le haut-commissaire Delevoye, qui voulait que la réforme soit appliquée dès 2025 tout de suite, et le président, le Premier ministre, qui ont évoqué la clause de grand-père. Clause de grand-père hein, qui n'a aucun sens, puisqu'elle ferait partir, ferait l'application de la réforme pour tous les nouveaux entrants sur le marché du travail.
Donc on décale un petit peu.
On décale juste de 40 ans pour une réforme qui est dite urgente. Voilà la contradiction. N'a aucun sens. Et deuxième signe de faiblesse, ou signe de force, comme on veut, c'est un peu typique de ce gouvernement, c'est les seuls régimes spéciaux qui ne seraient pas touchés seraient les régimes qui assurent la protection des personnes. Protection des personnes, c'est, concrètement, c'est toute la défense et le ministère de l'Intérieur. Hein, ce sont nos chers fonctionnaires de police.
Gendarmerie,
voilà.
Armée.
Ils ont très peur de perdre ce... Parce que l'argument étant que c'est des métiers physiques et fatigants, on veut bien admettre, il y a plein d'autres métiers physiques fatigants, il y a plein d'autres métiers vraiment avec des conditions de travail pénibles qui, eux, ne seraient pas concernés. Et puis, personnellement, je crois qu'il y a des tâches administratives dans les commissariats ou dans les casernes. Je ne pense pas que ça pousse... On pourrait adapter les métiers aussi. Hein. Donc, en soi, l'argument n'est pas recevable.
Attends, et... sachant donc on va... En gros, le gouvernement propose de réduire les régimes spéciaux, tous les régimes spéciaux, sauf un. Donc en fait, il y a encore
des régimes spéciaux. Il y en aura un, deux. Peut-être que, comme la mobilisation sera très forte chez les cheminots, je pense qu'ils auront du mal à... Ils ont objectivement, hein, alors ça c'est vraiment de la spéculation que je fais, j'aime pas trop, mais bon, objectivement je pense qu'ils vont être obligés peut-être de faire quelques concessions sur certains
secteurs. C'est des secteurs combatifs qui ont d'ailleurs déjà commencé par des systèmes de grève perlée, de choses comme ça. C'est un secteur assez combatif et qui d'ailleurs en 95 avait été principalement visé lors de la réforme Juppé sur les régimes spéciaux, qui là avait été abandonné suite à 3 semaines de mobilisation. Est-ce que là, un petit peu, on a...
Alors là, on a un peu...
Est-ce qu'un 95 peut se profiler?
Alors, la mobilisation qu'on a, alors ce ne sera pas 95 parce que les conditions sont différentes, les forces syndicales sont aussi différentes. Par exemple, 95, la CFDT s'était mis en accord avec le plan Juppé, hein, validé le plan Juppé. Là, la CFDT, par exemple, cheminot, a aujourd'hui décidé de se prononcer pour la grève. Hein. Donc même la CFDT, qui est le syndicat qui est pour le système à points, la seule organisation professionnelle avec l'UNSA en partie, qui est pour le système à points, et en interne, je sais que ça freine des deux, ça pose beaucoup de conflits en interne. Hein, parce que, en fait, le système à points, c'est pas ça. L'enjeu n'est pas vraiment dans le système à points. L'enjeu est vraiment sur la règle des 13,8%. Derrière le système à points aussi, puisque pour les questions d'égalité. En fait, ils continuent à croire qu'on pourrait espérer quelque chose du gouvernement, une concession, mais non, c'est très fragilisé en interne. Donc, en fait, moi, je vois trois forces, hein, trois mobilisations, trois grands secteurs d'activité. Le secteur qui est les plus touchés, le secteur des régimes spéciaux, qui est lié à la SNCF, à la RATP. Là, c'est parti. Depuis le début, c'est parti. Ils sont ultra mobilisés. Les gars, à chaque fois que je discute avec des cheminots, c'est bon, ils sont partis. Ils sont pas partis pour le 5, hein. Ils sont partis à partir du 5.
Ouais.
Et ça va durer.
Pour eux, c'est une grève illimitée.
Une grève reconductible, on verra jusqu'où elle ira, mais grève reconductible, et à mon avis, sans problème, jusqu'aux vacances. Hein, pour vraiment paralyser, puisque de toute façon, ce gouvernement, ce qu'on a noté avec les Gilets jaunes, le seul moment où il a lâché un peu, c'est quand il y a un rapport de force violent.
Et par la grève.
Violent, mais enfin, dans l'idée que ça bloquait vraiment l'économie, que ça paralysait l'économie, où il y avait vraiment... il n'y a pas d'écoute. Sinon...
La grève est une violence symbolique,
bien sûr.
Mais que effectivement, l'objectif de la grève est général, c'est vraiment de pouvoir cesser le travail pour imposer un rapport de force collectif et dire négocier en l'occurrence, cette réforme-là, on n'en veut pas.
Une grève d'un jour ou deux jours corporatiste, pas dans le sens négatif, hein, lié à une profession, ça ne marche pas. Il faut que ce soit absolument massif.
Et là, sachant que dans le cadre de cette grève générale, tous les corps de métier, a priori, sont couverts, puisque généralement, les grandes centrales syndicales s'arrangent pour poser des préavis de grève.
Alors, soyons très clairs, à part les certains personnels d'astreinte qui n'ont pas le droit de faire grève, tout le monde, tous ceux qui ont potentiellement le droit de faire grève, quasiment 98% des salariés.
Les salariés du public ou du privé. Pour les indépendants, leur propre initiative de se dire.
Et je vais insister sur un truc. Voilà, il y a trois. Il y a les régimes spéciaux, ceux qui sont déjà très mobilisés. Il y a, dans un deuxième temps, je vais vite, effectivement, les fonctionnaires. Plus globaux, plus généraux, qui sont en train de se mobiliser massivement dans la fonction publique plus classique, territoriale, éducation. Là, ça décolle. Hein, ça décolle. Le 5 décembre, ils seront dans la rue, hein, pour, à mon avis, 80% d'entre eux. Donc, ça va partir. Après, la question de la reconduction se posera. Et dernier type de salariés, les salariés du privé. Là, c'est plus difficile. Là, il y a tout un travail de mobilisation à faire. Et moi, si j'ai un message à faire passer à ces salariés du privé, vous êtes concernés.
Ah bah,
vous allez aussi perdre de l'argent. C'est pas une réforme qui s'attaque aux régimes spéciaux ou aux fonctionnaires, c'est une réforme qui s'attaque à tout le monde.
Et sachant que les Gilets jaunes ont peut-être prévu, on a pu voir différentes, enfin, si on suit un petit peu l'actualité des Gilets jaunes, il y a quand même aussi une volonté un petit peu de...
Ah, ils sont les bienvenus, hein, on les accueille à bras ouverts.
D'aller dans
hein.
cette manif pour faire valoir, puisque enfin, les Gilets jaunes se mobilisent depuis plus d'un an sur des questions vraiment de conditions de vie, ce genre de choses.
D'ailleurs, Gilets jaunes et syndicalistes sont quand même souvent... on retrouve pas mal de syndicalistes dans les rangs des Gilets jaunes, pas que, hein, mais en quelques-uns.
Bien que les directions syndicales aient été largement frileuses envers le mouvement Gilets jaunes.
L'interrogation, c'est aussi les gens qui travaillent précaires, Uber, etc.
Tout à fait, tous ces indépendants-là.
Et ça va être un enjeu aussi, parce que...
Tout à fait.
Dans le nombre.
Il nous reste 30 secondes pour finir. Donc, moi, je vais vous remercier d'être venu intervenir sur cette question de la réforme des retraites.
Merci beaucoup.
On espère vous retrouver le 5 dans la rue ou ailleurs, peut-être le 6, le 7, le 8, le 9.
On n'espère pas. Vous serez dans la rue.
Et puis, en tout cas, nous, pour l'émission, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission dont on n'a pas encore la thématique. Et on va laisser la parole à l'émission d'après. Bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir.